Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du vendredi 10 novembre 2017. C'est Hélène Dédard qui vous parle et avec moi en studio, on a de la belle visite. Francine Forgette qui nous revient. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Et Catherine Brunet.
Bonjour.
Bonjour. Et Mathieu Tessier à la régie. Bonjour Mathieu.
Si je pouvais parler dans mon micro, ça irait mieux. Bonjour.
Alors, nous allons débuter avec les présentations. Francine, de quoi allez-vous nous parler ce matin?
Alors, semble-t-il qu'on est dans le siècle de l'odorat. Okay. Et fidèle à mes habitudes, un petit tour du côté des robots.
Oh, oui, j'adore.
Est-ce qu'ils menacent votre...
Oh, belle question. J'ai hâte d'entendre ça. Et vous, Catherine?
De mon côté, je vais poursuivre la lecture de nouveaux projets. J'entame un dossier sur l'appropriation culturelle. C'est un article très intéressant de Samuel Mercier. On va en discuter.
Merci beaucoup, Catherine. Et pour ma part, je vais débuter tout à l'heure avec le très grand et très beau dossier de Noémie Mercier, la suite de la semaine précédente. Nous vous revenons dans quelques instants. Bonjour, Hélène Bédard au micro. La semaine dernière, je vous parlais de ces femmes qui étaient qui ont été visitées par Noémie Mercier dans un très grand dossier. Le titre de l'article s'appelle « Les mots qui libèrent ». Je vais vous entretenir également dans les semaines qui vont venir de la suite de ce dossier. Donc, je vous en lis une autre partie aujourd'hui. Donc, ces femmes qui étaient mal parties autour d'une table mais qui discutent de livres dans un club de lecture de la prison de Joliette. Elle m'intègre, en parlant d'intervieweuse, dans leur mécanique bien rodée. De ses débuts, m'a-t-on dit, chaotique, le club de lecture est devenu une affaire structurée avec des tours de table où chacune a l'occasion de s'exprimer. Des questions qu'on écrit sur des bouts de papier et qu'on pige pour stimuler la discussion, des incitations constantes à écouter sans interrompre, j'ai vu changer beaucoup le caractère de certaines femmes qui étaient braquées en arrière d'une armure, me dira la responsable du club de lecture, Karine. Les détenues de 5 pénitenciers pour femmes du pays, elles sont environ 700, dont 115 à Joliette, sont parmi les êtres les plus écorchés de la société, broyés encore plus que les hommes dans l'engrenage de la violence, de la maladie mentale et de la misère. Pas moins de 86% d'entre elles ont vécu de la violence physique et des sévices sexuels. La moitié présente des problèmes de santé mentale, deux fois plus que chez les détenus masculins. Et près de 1 sur 2 prend des médicaments psychotropes. En fait, presque toutes ont souffert d'au moins un trouble psychiatrique au cours de la vie, notamment et surtout le syndrome de stress post-traumatique. Plus des trois quarts sont toxicomanes ou alcooliques. Une bonne moitié se sont infligés des blessures ou ont essayé de mettre fin à leur jour. Les spécialistes parlent volontiers de criminalité de survie pour expliquer la déroute de ces êtres carencés. Au moment d'entrer au pénitencier, les deux tiers n'avaient même pas terminé leurs études secondaires et 60% d'entre elles étaient sans emploi. La majorité sont aussi mères. Plus de 70% de ces prisonnières ont des enfants en bas âge, le plus souvent en situation monoparentale. Une criminalité de survie, donc, c'est un choix par manque de choix. Tu es dépendant de l'alcool ou des drogues, tu as besoin d'argent, tu es plus à risque d'être en conflit avec la loi, ne serait-ce qu'en faisant de la prostitution ou en volant. Et là, tu es prise dans une spirale, m'explique Ruth Gagnon, la directrice générale de la société Elizabeth Fry du Québec, un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes judiciarisées. Il y en a qui, à peine sortis de l'enfance, étaient déjà marqués pour le restant de leur vie. Donc, revenons à la prison et au club de lecture. Lors de ma deuxième présence en prison, fin avril, ces brutales réalités ont fait irruption dans le club de lecture et ont failli tout faire sauter. Un roman d'une violence insoutenable était au programme ce soir-là. Le titre, « Une fille comme les autres » de Jack Ketchum, un thriller qui raconte l'histoire d'une adolescente torturée à mort dans le sous-sol d'une maison de banlieue aux États-Unis dans les années 50. L'auteur ne ménage rien sur les détails à propos des supplices infligés à la jeune Meg. L'idée que de telles atrocités soient inspirées de faits réels, que le voisin de 12 ans y ait assisté sans intervenir, que toute une collectivité ait faim de ne pas savoir, tout cela touche ici des cordes trop sensibles. L'atmosphère est chargée, presque solennelle dans ce petit local. J'en vois qui sèchent des larmes furtives, d'autres qui regardent dans le vide ou qui se frottent les yeux. Les voix sont plus étouffées que d'ordinaire. Plusieurs évoquent les mauvais souvenirs que le roman réveille. La maltraitance subie dans l'enfance, les appels à l'aide restés sans réponse. Certaines vont jusqu'à remettre en question leur participation à l'activité du club de lecture. Quand je lis, c'est un loisir, mais là, ça m'écœure beaucoup. J'ai pas le goût d'en parler pendant une heure et ça m'en revirait à l'envers, dit Manon. Tous les noms en passant qui vont être cités dans cet article ont été modifiés pour préserver l'identité de ces femmes. À mi-chemin, la rencontre, Caroline, n'en pouvant plus de se contenir, se dirige vers la porte. Je suis mieux de sortir avant de dire quoi que ce soit qui risque de blesser les oreilles des autres. Une autre détenue lui emboîte le pas presque aussitôt. Jamais un livre n'a provoqué un tel émoi depuis le début du club. Une animosité gronde sur la surface. Des sous-entendus accusateurs lancés sur un ton de défi, des menaces voilées. On est assis à une table dans un pénitencier, puis on voit des gens comme ça, fulmine Joanne. On s'entend-tu que dehors, ma voisine ferait ça, puis elle prendrait une méchante culbute? La tension a pourtant fini par se désamorcer. Tout en faisant le procès du livre, les détenus se sont mis à s'interroger sur les racines de la violence. À considérer quelle maladie, quelle haine de soi, quelle oppression peut conduire à se déchaîner ainsi. T'as toujours des blessures quand tu infliges des blessures. Mais peu à peu, ce qui s'annonçait comme une séance houleuse s'est mué en une démarche d'analyse remarquablement posée. Ce pouvoir des mots de panser certaines plaies, Karine me le résumera ainsi lors d'un tête-à-tête à la prison. Quelques semaines plus tard, chaque émotion qu'on porte en nous, chaque dégueulasserie qu'on ne sait pas comment extérioriser à travers les personnages des romans, on est capable de l'évacuer, fait qu'on grandit. Un dérapage a néanmoins été évité de peu et l'épisode a fait réagir en haut lieu. Qu'un livre puisse raviver des traumatismes ou nourrir des conflits n'a rien d'anodin dans un environnement aussi volatile. Notre travail, c'est aussi de nous assurer que les femmes soient en sécurité, m'explique Fanny Derouin. Certaines détenues peuvent exprimer leur rage et leur désespoir en se taillant dans la peau, en avalant des objets coupants, en s'étranglant avec des ligatures, en se frappant la tête contre les murs. Dans l'ensemble des pénitenciers pour femmes, les comportements d'automutilation de plus en plus sérieux, chroniques et presque mortels. En 10 ans, le nombre d'épisodes d'automutilation, chez les détenus s'est multiplié par 7, tandis que le nombre de tentatives de suicide a triplé. Les voies de fait entre prisonnières sont 2 fois plus fréquentes aujourd'hui qu'il y a une décennie. Ainsi, depuis ce fameux soir d'avril, et depuis ce livre, le club de lecture suscite une certaine nervosité à la prison de Joliette. Désormais, chaque livre sélectionné doit être parcouru à l'avance par l'agente des programmes sociaux et approuvé par la direction, précise la directrice Cynthia Racicot, pour s'assurer qu'on est disponible pour les détenus qui en auraient besoin. C'est une page tirée de la grande enquête de Noémie Mercier, publiée dans la revue Actualité. Je vous reviens la semaine prochaine avec la suite de... Nous poursuivons donc avec Francine Forgette.
Merci. Alors, bienvenue dans le siècle de l'odorat. Cette chronique, elle est signée par Mario Girard. C'est dans la Presse Plus de l'édition du 29 octobre dernier. Le sens le plus emblématique du 21e siècle est sans contredit celui de l'odorat. Je ne suis pas le seul à le penser. Nombreux sont les anthropologues, sociologues, philosophes et observateurs des grands mouvements sociaux qui affirme, théorie en poche, que nous sommes à l'ère du nez. Contrairement à la vue et l'ouïe, l'odorat a longtemps été perçu comme un sens inférieur. Paul-Pierre Broca, un anatomiste du 19e siècle, disait que les humains étaient dotés d'un nez petit et inutile. Il comparait l'appendice humain à celui des animaux. En effet, l'humain ne possède que 400 différents types de récepteurs olfactifs, alors que le chien en a 800 et le rat 1200. Mais de nouvelles études ont démontré que le cerveau humain jouait un rôle capital dans l'identification des odeurs. Une fois de plus, nous pouvons dire que l'humain est un supra-animal. Le développement de l'hygiène et notre obsession du propre ont aussi largement contribué à faire la part belle au monde des odeurs. Souvenez-vous des premiers paragraphes du roman Le Parfum de Patrick Sunskind, dans lequel l'auteur décrit les odeurs qui régnaient dans les rues de Paris au XVIIIe siècle. Nous ne pouvons imaginer, nous qui garnissons les étagères de nos salles de bain de savon, de shampoing, d'huile de bain, de dentifrice, de brosses rotatives pour le visage et tutti quanti, la puanteur tenace et puissante avec laquelle devaient vivre les Européens des grandes villes au XVIIe et XVIIIe siècles. Nous sommes passés d'une époque où l'on croyait que conserver sa crasse protégeait des maladies, à une autre où la moindre mauvaise odeur corporelle est condamnée et méprisée. Aujourd'hui, quelqu'un qui pue est la cible de mille et un préjugés. On s'en éloigne. Je remarque un plus grand raffinement dans les parfums des divers produits domestiques qui meublent notre quotidien. Les savons à vaisselle sont offerts dans une gamme infinie d'arômes de plus en plus recherchés. N'oublions pas que les créateurs de parfums n'apprennent pas seulement à créer des parfums fins. On leur montre aussi à procurer des odeurs à une foule de produits et d'objets. Ces parfumeurs sont maintenant plus nombreux et mieux formés qu'il y a 50 ans. Et les molécules synthétiques avec lesquelles ils travaillent s'offrent par milliers. En quelques années, nous sommes passés de 700 lancements de parfums par année à 1200. C'est énorme. On assiste depuis quelques années à une prolifération des parfums de niche et au grand retour de la haute parfumerie. De grandes marques disposent maintenant d'une ligne dite haute couture. Dior, Yves Saint Laurent, Tom Ford, Chanel et d'autres maisons créent des parfums rares et coûteux, faits de matières premières de grande qualité. Cela redonne de la vigueur à cette industrie qui était devenue purement et bassement commerciale dans les années 80 et 90. Et comme si cela n'était pas suffisant, les nés créent des collections de parfums que l'on peut mélanger afin de rendre le résultat encore plus unique. Le parfum nous rapproche du sacré et du divin. Avez-vous remarqué la recrudescence des parfums contenant de l'encens, de l'oliban, du styrax et autres résines depuis quelques années? Nous avons laissé des églises vides derrière nous, mais nous continuons à respecter, chacun à notre façon, une sorte de spiritualité personnalisée. Le parfum, la sueur des yeux, ne fait pas qu'aromatiser la peau, il embaume aussi l'âme. La tendance à parfumer les lieux publics a commencé il y a une quinzaine d'années. Elle est maintenant très répandue. De grands hôtels font faire sur demande un parfum basé sur leur style et leur personnalité. Ces arômes, dégagés par des boîtes cachant des diffuseurs électriques, nous accueillent et nous donnent instantanément des indices sur le caractère de l'endroit dans lequel nous pénétrons. Depuis quelques années, des metteurs en scène et des chorégraphes intègrent des ambiances olfactives à leurs spectacles ou leurs manifestations. Des conservateurs, responsables d'organiser des expositions dans des musées, ont emboîté le pas. On voit également de plus en plus d'ateliers d'initiation au parfum et au monde des odeurs offerts aux enfants et aux adultes. Au Japon, la cérémonie de l'encens, pratique ancienne quasi oubliée, connaît un nouvel engouement. La science et la médecine qui exploitent les possibilités de l'olfactif. Ces dernières années, des recherches ont été menées avec des chiens dépisteurs de cancer. D'autres chercheurs testent des nez électroniques afin d'identifier des maladies et éventuellement détecter la fameuse odeur qui précède la mort. Et que dire des huiles essentielles, des plantes aromatiques et de l'impressionnant marché du parfum d'ambiance et des bougies parfumées. Bref, après avoir rassasié nos yeux, nos oreilles et notre bouche pendant des siècles, voilà que nous nous occupons de notre nez. Est-ce un hasard si ce sens, véritable baromètre de nos émotions, est aujourd'hui célébré? Je ne le pense pas, vraiment pas. Le 21e siècle est celui de l'odorat, mais ce siècle est aussi celui d'agitation de toutes sortes et de troubles. L'être humain sent le besoin de se créer une bulle dans laquelle il se sentira bien et en sécurité, une bulle qui lui offrira des repères. Je vous l'ai dit, l'humain est un supra-animal. Alors Mario Gérard, qui nous parle de l'odorat dans la Presse Plus du 29 octobre 2017.
Danny Placard et sa chanson Sleeping Bag que l'on retrouve sur son album Full Face. À vous, mesdames.
Oui, eh bien, nous revoilà en studio. Hélène Bédard, Francine Forget, Catherine Brunet sont toujours présentes. Et Catherine va nous amener vers...
L'appropriation culturelle. Rien de moins. C'est quand même grand. Ça fait toujours scandale vers l'Halloween. Je suis un peu en retard, mais quand même, ça vaut la peine d'en parler. C'est un article de Samuel Mercier. Ça s'appelle « Qui a peur de l'appropriation culturelle ?» De scandale en scandale, la notion d'appropriation culturelle suscite l'ire des médias conservateurs, la folie sur les campus et la circonspection d'une partie de la population. Mais de quoi parle-t-on au juste? En mai dernier, Une polémique éclate chez les anglophones du pays, entraînant la démission du rédacteur en chef du magazine Right de la Writers Union of Canada. L'origine du scandale? L'éditorial d'un numéro consacré à la littérature autochtone dans lequel Al Niedefsky propose à la blague un prix d'appropriation culturelle pour les auteurs qui choisissent d'écrire sur d'autres réalités que la leur. Et on le cite, « Mon avis va à l'encontre de la règle traditionnelle », écrit-il avec une belle innocence. Je dis « Écrivez à propos de ce que vous ne connaissez pas. Explorez sans relâche la vie de gens qui ne sont pas comme vous, avec qui vous n'avez pas grandi, qui n'ont ni le même bagage que vous, ni le même compte en banque, ni les mêmes ambitions. » Sans surprise, les premières critiques surviennent sur Facebook. Hélène Knott, l'une des contributrices du numéro, répond au rédacteur en chef. « Je suis sérieusement dégoûtée que quelqu'un se serve de l'édition sur les Autochtones comme d'un tremplin pour ses revendications à propos de l'appropriation culturelle et qu'il le fasse sur le dos des mots et de la réputation des écrivains autochtones qui y ont contribué. » Il n'en faut pas davantage pour que les médias et les blogs s'emparent de l'affaire. Un billet de Vice se trouve coiffé d'un titre subtil, comme souvent sur le site web, « Une gang d'éditeurs canadiens blancs aiment vraiment l'appropriation culturelle. » Le Huffington Post opte pour « Chères personnes blanches, l'appropriation culturelle existe, même si vous n'y croyez pas. » De son côté, le Toronto Star publie une tribune dans laquelle l'écrivain Navnet Alang avance que le mainstream blanc prend non seulement le dessus, mais il met trop souvent de côté les voix des minorités et des autochtones. Dans les médias étiquetés plus à droite, les appuis embarrassants pour Niedefsky se font sentir. Andrew Coney, chroniqueur au National Post, écrit par exemple que la présente controverse a moins à voir avec l'appropriation culturelle qu'avec l'impossibilité de débattre de concepts. Au Québec, dans les pages du Journal de Montréal, Richard Martineau explique que le cancer de la rectitude politique continue de faire des ravages au sein de l'élite. Tandis que la chroniqueuse Lise Ravary s'indigne du fait que les artistes privilégiés, comprenés blancs ou de classe moyenne, n'auraient plus le droit d'interpréter artistiquement les réalités de groupes opprimés. Quelques jours après la parution de son texte, Niedefsky s'excuse sur sa page Facebook. Il avoue avoir failli en ne se rendant pas compte des impacts négatifs profonds et durables de l'appropriation culturelle sur les Autochtones. Dans la foulée, deux membres influents des médias canadiens ayant appuyé publiquement l'éditorialiste perdent leur emploi. Jonathan Kay, alors rédacteur en chef du magazine The Walrot, remet sa démission. Steve Ladurant-Taillé, chef d'édition du National, publie plus populaire émission d'information à la télévision de la CBC, se voit réassignée à la division expérience contenu du diffuseur public, sans doute plus pour l'expérience que pour le contenu. Comment expliquer que le Canada s'enflamme à ce point en ce mois de mai 2017? Ces dernières années, de nombreux cas ont été médiatisés, du blackface chez les humoristes québécois en passant par les critiques anti-dreadlocks ou l'opposition au cours de yoga à l'Université d'Ottawa. Si le concept d'appropriation culturelle occupe de plus en plus les discours, il semble toutefois recouvrir un ensemble disparate de phénomènes, au point qu'il devient difficile d'en déterminer les limites exactes. On retrouve des traces de cette notion chez les théoriciens de la décolonisation, comme Aimé Césaire ou France Fanon. Au Québec, le concept anthropologique de « fatigue culturelle » employé par l'écrivain Hubert Aquin dans son célèbre texte « La fatigue culturelle du Canadien français », publié en 1962, figure parmi les grands oncles théoriques du concept. Dans cet article, qui se voulait une réponse à Pierre-Éliott Trudeau, l'auteur du prochain épisode expliquait que la culture canadienne-française aurait été reprise par le Canada anglais sur un mode festif pour en évacuer la portée revendicatrice. Plus l'attention du majoritaire vainqueur devient particulariste et pleine de sollicitude, écrit-il, plus elle manifeste qu'il ne redoute plus les manifestations globales de la culture minoritaire. La récupération du folklore ou d'éléments d'une culture dominée par le dominant serait, pour Aquin, un indice de la mort annoncée de cette culture. Mais contrairement à ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les médias, le passage d'éléments d'une culture à l'autre n'est pas décrit par Aquin. L'écrivain ne voit aucun problème à ce que le dominant s'intéresse aux coutumes du dominé. La récupération est plutôt présentée comme inévitable lorsque la culture du colonisé n'est plus menaçante. Si un dominé qui n'arrivait pas à sortir de sa fatigue culturelle est voué à la disparition, il lui appartient de s'extirper lui-même de sa torpeur. Il faut attendre les années 1980 et 90 pour voir apparaître les premières occurrences de l'appropriation culturelle dans son, dans son acceptation contemporaine, mais là encore, il n'existe pas de théorie qui circonscrive l'expression clairement. La pensée postcoloniale américaine, inspirée de la philosophie française, tend à travers des travaux comme ceux d'Edward Said à condamner les structures de pouvoir qui récupèrent des éléments de culture colonisée. La critique ne s'adresse plus tellement aux colonisés, comme c'était le cas chez France Fanon ou Hubert Aquin, elle vise désormais le cadre universitaire américain et européen. Ce déplacement de l'autocritique des colonisés dans leur rapport au pouvoir à la critique d'un système et de ceux qui détiennent le pouvoir marque sans doute un tournant important dans l'évolution du phénomène. Et après la pause, je vais vous entrer plus en détail avec des exemples, par exemple, plus récents. On pense entre autres au yoga à l'Université d'Ottawa qui avait vraiment fait jaser beaucoup. Alors, je poursuis après la pause.
Je vais vous poser une question. Le jeûne est-il recommandable? Pratique très répandue dans le règne animal, conditionnée par la rareté de la nourriture, le jeûne séduit aujourd'hui de plus en plus de personnes, que ce soit pour se maintenir en bonne santé ou guérir plus rapidement d'une maladie, en donnant un bon coup de fouet à son système immunitaire. Cette pratique entraîne-t-elle toutefois tous les bienfaits qu'on lui prête? Le jeûne est-il vraiment recommandable, surtout à l'époque des 3 repas par jour? Nous vous reviendrons avec la suite de cette réflexion après la pause. Ne quittez pas.
Words are like a lasso. You're an instrumental tool.
merveilleuse Feist qui nous chantait « How come we never go there? » Hein, c'est une bonne question.
Oui, avez-vous la réponse,
non,
Mathieu?
Non, pas du tout. Pas encore. Hein.
Alors, nous sommes de retour au Voix de service magazine. Francine Forget, Catherine Brunet et Hélène Bédard. Juste avant la pause, je vous parlais de jeûne, alors je ne vais pas vous laisser plus en appétit. Je vais vous revenir avec la suite de mon texte. D'où vient l'idée du jeûne? La privation de nourriture est courante dans la vie animale, comme je l'avais dit précédemment. Les animaux jeûnent instinctivement lorsqu'ils sont malades ou blessés, ou sont forcés de jeûner quand ils ne trouvent pas de quoi se nourrir. Les graisses stockées dans leurs différents tissus sont restituées en l'absence d'alimentation, ce qui leur permet de se passer de nourriture pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, comme chez les espèces qui hibernent. De la même façon, l'humain est largement capable de survivre sans manger pendant un certain temps, comme en témoignent les périodes de disette, de famine ou de guerre que l'humain a traversées historiquement. Mais pourquoi jeûner à l'époque de 3 repas par jour? Si les gens jeûnaient par défaut du temps des disettes et des guerres, sa pratique ne semble plus d'utilité dans les sociétés industrialisées où la nourriture abonde. Les 3 repas par jour, éventuellement additionnés d'1 ou 2 collations, sont aujourd'hui devenus la norme. Pourtant, si l'on constate que la vie d'un animal ou d'une personne ponctuée de moments de jeûne, ce rythme de 3 repas par jour ne semble pas naturel. Au contraire, il pourrait participer à l'encrassement de notre organisme en ne le laissant jamais quasiment au repos, sans mentionner les impacts de la nourriture industrielle sur la santé. Pratiquer occasionnellement ou régulièrement le jeûne semble être donc une façon de revenir artificiellement au rythme naturel et pourrait procurer des effets positifs sur la santé. Le jeûne aurait effectivement des bienfaits sur la santé physique et psychique, mais il ne se pratique pas de la même manière selon l'objectif qu'on cherche à atteindre. Il existe des jeûnes intermittents qui consistent à les faire courts mais réguliers. Plusieurs formats existent. Le format 16-8 qui consiste à étaler ses repas sur 8 heures de la journée et à jeûner les 16 autres heures, par exemple en mangeant exclusivement de 13 à 21 et ce tous les jours. Le jeûne peut être réalisé à raison de 24 heures hebdomadaires, de préférence le même jour à chaque semaine. Un jeûne de 24 heures a été étudié au cours d'une recherche réalisée en Utah sur 200 personnes en bonne santé. Le résultat a montré que le stress ou la faim provoqué par le jeûne favorisait la combustion des graisses et entraînait une augmentation spectaculaire du taux d'hormones de croissance à raison de 2000% chez l'homme et de 1300% chez la femme. Cette hormone permet de préserver la masse musculaire et de réguler le taux de glucose sanguin, ce qui a pour effet de diminuer le risque d'être résistant à l'insuline ou de contracter une diabète. Par ailleurs, le jeûne intermittent permettrait de lutter contre le stress oxydatif et donc de préserver la jeunesse du cerveau ainsi que sa mémoire et ses fonctions d'apprentissage. Il y a aussi jeûner pour détoxiquer son corps. La cure de jeûne peut servir à nettoyer son corps des toxines accumulées par l'alimentation moderne, la pollution ou le stress, et dure généralement de 3 à 5 jours, mais peut aller jusqu'à 3 semaines. Le fait de ne plus alimenter son corps lui permet de se consacrer en totalité à ses fonctions de régénération et d'élimination des surcharges et de déchets. Il est souvent composé uniquement de d'eau. Si la faim se fait ressentir au début, elle disparaît généralement après le 2e jour pour laisser place à un sentiment de légèreté et une plus grande clarté d'esprit. Parmi les effets de détoxication, on note une langue chargée, une haleine fétide et une urine plus foncée. Plusieurs signes peuvent suggérer la fin de la détoxication et l'arrêt du jeûne comme tout ce qui revient à la normale, c'est-à-dire la langue retrouve sa couleur normale, l'haleine désagréable disparaît et l'urine redevient claire et la sensation de faim revient naturellement. Les patients qui sortent d'une cure de jeûne témoignent souvent d'une vitalité accrue, d'une plus grande conscience et d'un meilleur recentrement sur eux et recommandent ces périodes de transition du printemps et de l'automne. Il est important, en terminant, de ne pas se lancer tête baissée dans un jeûne de plusieurs jours sans avoir préparé son corps. Il vaut mieux avoir commencé par l'habituer à ne pas recevoir de nourriture régulièrement pendant plusieurs jeûnes. Et ne pas hésiter à faire un bilan de santé si on pense que nos capacités physiques ne pourrait pas y survivre. Par ailleurs, il est fortement recommandé de réduire progressivement sa ration alimentaire quelques jours avant le début du jeûne. Éviter les poissons, les produits raffinés, pâtes, pain, riz, sucre blanc, sous peine de souffrir de quelques effets secondaires tels que des maux de tête, irritabilité ou des vertiges. De manière générale, et pour toutes ces raisons, il est préférable d'être suivi et encadré au moment d'entamer un jeûne long, surtout si l'on n'y est pas habitué. Alors, c'est un texte qui est paru dans Passeport Santé, le volet actualité. Merci. Voici en studio et Catherine va nous donner la suite des choses de son intéressant article. Vas-y à toi.
Oui, on va tomber dans un peu plus de concret avec des exemples, mais juste avant, on va aller vers la notion d'appropriation culturelle. Alors voilà, la notion d'appropriation culturelle fait son entrée dans le discours des anthropologues et des chercheurs en sciences sociales au début des années 1980. Souvent utilisée comme un synonyme de transfert culturel, elle est d'abord vue comme une forme de métissage et d'échange et ne revêt pas nécessairement de connotations négatives. Le philosophe Michel de Certeau, par exemple, met de l'avant la notion de braconnage, un type d'appropriation souhaitable où les individus seraient des braconniers s'appropriant la culture pour échapper au contrôle des producteurs de biens culturels, ici comparés à des propriétaires terriens. À partir des années 90, les milieux militants, plus qu'universitaires, comment cependant employer le concept d'appropriation culturelle pour désigner l'appropriation illégitime par un groupe dominant d'un élément culturel appartenant à un groupe dominé? Un article du journal féministe radical américain Off Our Backs en fait ainsi mention dès 1991. Dans un article intitulé « White Woman Drops Rap », une rappeuse d'origine anglaise, Marilyn T., annonce qu'elle souhaite abandonner la pratique à la suite d'un travail de conscience et de dialogue que j'ai fait avec quelques-unes de mes amies lesbiennes, femmes de couleur et femmes blanches. Je veux exprimer mes excuses publiques pour ce que je vois désormais comme la perturbation du racisme au sein de la communauté lesbienne. Je comprends maintenant que la musique était une appropriation de la culture africaine, en particulier les morceaux qui reprenaient des mots jamaïcains avec l'accent. Paradoxalement, la valorisation du métissage bat son plein durant cette période. Au Québec, un magazine comme Vice Versa prône la transculture et le milieu des lettres parle beaucoup de littérature migrante. C'est d'ailleurs l'écrivaine Régine Robin, une représentante majeure dans cette nouvelle vague, qui emploie l'expression « appropriation culturelle » pour l'une des premières fois en français en 1995, pour la qualifier de « phénomène inepte » et d'invention du Conseil des arts du Canada. Cette même année, Rage Against the Machine est en tête d'affiche du festival Lollapalooza. Le groupe, qui mêle rock et rap, est un exemple populaire de musique engagée. Son chanteur, Zach de la Rocha, arbore fièrement ses dreadlocks de blanc, ce qui ne semble pas poser problème. Bien sûr, l'arrivée du câble, des cassettes audio, du FM, du vidéoclip, de la vidéo ou du Walkman a eu un énorme impact sur la mondialisation de la culture à la fin du 20e siècle. Cependant, les médias restent essentiellement contrôlés par des entreprises et une classe médiatique qui n'a pas à répondre des interventions de tous et chacun. Si des Afro-Américains ont pu s'opposer à la reprise du rap par des Blancs, comme Zach de la Rocha en 93, leurs voix, elles, n'ont pas nécessairement trouvé écho. Que s'est-il passé depuis pour que les emprunts et hybridations tant vantés dans les années 90 deviennent suspects au point qu'on doive les dénoncer aujourd'hui? L'apparition du canot comme Twitter ou Facebook a bien sûr changé la donne et contribué à polariser les débats. En novembre 2015, l'annulation d'un cours gratuit de yoga pour les étudiants handicapés à l'Université d'Ottawa fait le tour des médias internationaux. D'après un échange de courriels obtenu par le quotidien Ottawa Sun, un membre de l'association étudiante aurait expliqué à la professeure remerciée, Jen Scharf, que le yoga suscitait la controverse. Il s'agirait d'une appropriation des cultures de sous-continent indien qui ont connu l'oppression, le génocide culturel et la disparition à cause du colonialisme et de la suprématie occidentale. Bien sûr, la déclaration du membre anonyme de l'association repose sur des précautions largement exagérées. Ces dernières années, bon nombre de voix dans le milieu du yoga se sont élevées pour dénoncer la dénaturation de la discipline liée à la commercialisation sur les marchés nord-américains et européens, mais rien ne prouve que le cours en question pose ce genre de problème. Dans un vox pop mené par la CBC, des citoyens d'Ottawa d'origine indienne avouent d'ailleurs ne pas s'opposer à la pratique. Quelques médias en Inde prennent même la peine de dénoncer une mauvaise compréhension du yoga dans cette affaire. Le site de Nouvelle Indienne News Point décrit l'annulation du cours comme choquante, tandis que sur le site Youth Kid Awaks, un post-doctorant d'origine indienne de l'Université nationale australienne, explique que quelqu'un d'aussi respecté que BKS diffuse le yoga en Occident dans le but explicite d'y intégrer des éléments de la culture occidentale. Alors, je fais un saut pour arriver à la fin de l'article. Je vous épargne une partie où on parle de Poutine qui aurait été approprié aussi culturellement par la communauté anglophone. Et j'arrive à la fin. Comment comparer l'appropriation de la Poutine aux yoga à celles, autrement plus graves, qui se sont produites dans un cadre génocidaire? Le cas Niedevski remonte alors à la surface comme un révélateur de l'éternelle confusion autour de la notion d'appropriation culturelle. En profitant d'un numéro sur les peuples autochtones pour faire son coup de gueule, l'ex-rédacteur en chef du magazine Wright choisissait sans aucun doute le pire moment pour confondre les exemples bénis montés en épingle par certains médias avec ceux commis dans la foulée du génocide culturel canadien. Ne serions-nous pas en train de minimiser la gravité d'un événement dont la portée est réelle en l'assimilant aux controverses anti-Poutine, anti-Rastas ou anti-yoga, la plupart du temps relayées par des chroniqueurs à l'indignation rentable? Loin d'aider le débat, cette confusion entraîne une incompréhension toujours plus grande qui ne pourra déboucher que sur plus de répression et d'ignorance. Alors voilà, c'était un très long dossier de Samuel Mercier sur la question de l'appropriation culturelle.
Voilà en ondes. Francine Forget va nous entretenir de...
Alors, les robots, Jean Siag, dans la presse Plus du 6 novembre dernier, sous le volet technologique, a publié un dossier. Où il aborde l'emploi et les robots. Alors, je vous en lis un extrait. Selon les experts du Forum économique mondial réuni à Davos en janvier dernier, la robotique et l'intelligence artificielle deviendront les moteurs de la quatrième révolution industrielle. Une révolution qui redéfinira les activités agricoles et industrielles, le secteur manufacturier, la vente au détail, le domaine de la santé et la domotique, entre autres. Seul hic, selon ces experts, cette révolution entraînera d'ici les 5 prochaines années la suppression de 5 millions d'emplois, malgré la création d'environ 2 millions de nouveaux emplois. un scénario catastrophe que certains économistes contestent cependant ou tentent de mettre en perspective. N'empêche, l'Institut canadien Brookfield estime que 46 % des emplois au Canada ont un potentiel d'automatisation. D'où l'importance de préparer les jeunes à ce transfert de compétences, nous dit Gabriel Brand-Lopez, fondateur de Robotics First, qui est présent dans environ 150 écoles primaires et secondaires du Québec et qui organise chaque année une compétition de robotique. Le futur de l'éducation, dit-il, repose sur ces compétences transférables. Les gouvernements, les systèmes d'éducation, tout le monde se pose la question. Quelles sont les compétences du 21e siècle? Il ajoute, comment va-t-on préparer les élèves, en particulier les Autochtones, les jeunes immigrants ou les groupes sous-représentés au marché du travail, en sachant que plusieurs emplois d'aujourd'hui n'existeront pas demain? Dans un rapport sur l'emploi en Colombie-Britannique publié l'an dernier, l'organisme Labour Market Solutions abonde dans ce sens, estimant que près de la moitié des emplois pourraient s'automatiser ou se faire en collaboration avec des robots. Parmi les professions menacées, on retrouve entre autres les vendeurs en magasin, 650 000 emplois au Canada, et les caissiers, 309 000 emplois, je m'excuse. Dans ce contexte, les leaders de la vente au détail ne sont pas très loquaces. La compagnie de la Bédution, par exemple, n'a pas voulu commenter ces changements en cours, préférant s'en tenir à de grands principes. Nous croyons qu'il faut combiner le pouvoir des gens à celui de la technologie pour bien servir notre clientèle, indique une porte-parole de l'entreprise. Combien d'emplois seront automatisés? Comment la Bédution s'adapte-t-elle à cette nouvelle réalité? Nous sommes déterminés à livrer une expérience de shopping exceptionnelle, nous répond-on. Votre métier est-il à risque? L'Université d'Oxford et la FIM de Deloitte ont conçu récemment une application pour déterminer le risque de disparition de 365 emplois traditionnels. En un clic, vous verrez le risque d'automatisation de votre emploi. Les journalistes, par exemple, courent 8 % de risque de voir leur métier se robotiser. En revanche, les représentants de vente, les techniciens de laboratoire et les caissiers ont 90 % de risque de voir leur job disparaître. Les créateurs de cette application estiment que 35 % des emplois actuels, on parle ici de l'Angleterre, risquent d'être automatisés. Une liste des jobs les plus et les moins à risque a été dressée. Des emplois plus intéressants? Margarida Romero, qui est professeure en technologie éducative à l'Université Laval à Québec, envisage ce virage de façon positive, estimant que cette révolution risque de rendre les emplois plus intéressants. Je crois que les emplois qui vont disparaître sont les moins intéressants et les plus routiniers. La cueillette des fruits est un bon exemple. Pourquoi exploiter des gens à cueillir des fraises sous le soleil quand on peut le faire avec un robot? Margarita Romero poursuit, « Moi, je pense que ça peut créer des emplois qui seront plus intéressants. Tout dépend des politiques qui seront mises en place pour mettre en valeur l'humain. » Dans son livre intitulé « Usage créatif du numérique pour l'apprentissage au 21e siècle », la chercheuse indique que les emplois requérant une plus-value humaine, par exemple dans le domaine de l'ingénierie, la créativité artistique, l'éducation, la psychologie ou l'éthique et la justice, ne sont pas en péril. Parce qu'il y a des domaines où les humains ont besoin des humains et où la pensée critique est nécessaire. À Polytechnique, le directeur du département de génie mécanique, Luc Baron, estime de son côté que le nombre d'emplois de techniciens va nécessairement augmenter pour faire fonctionner tous ces systèmes automatisés imaginés par des équipes d'ingénieurs, pour leur conception, mais aussi pour leur entretien. On n'a qu'à penser aux centres de distribution d'Amazon ou aux véhicules automatisés du nouveau CHUM. La robotique collaborative. Le directeur du programme de génie robotique à l'Université de Sherbrooke, François Michaud, croit qu'en fin de compte, le plus grand défi à venir est la collaboration entre humains et robots. Alors, un beau défi qui nous attend et qui est relaté dans la Presse Plus du 5 novembre par Jean Siag. Intéressant, ces robots, Francine. Merci beaucoup pour cet article. Ça laisse à songer ensuite. Du coup, je vais poursuivre avec un article qui ne pourra pas être robotisé. Ce que je vais en lire ne pourra pas être robotisé. À 77 ans, cet homme a atteint l'Everest. Alors voilà. Un des plus âgés à réaliser l'exploit, le Montréalais a signé un tour de force en 9 jours de marche. Lorsqu'il est arrivé au camp de base, ce Montréalais, qui se nomme Georges Galarneau, s'est senti libéré et fier d'avoir atteint son objectif. Donc, ce Montréalais de 77 ans est devenu l'une des plus vieilles personnes à avoir grimpé jusqu'au camp de base de l'Everest. Depuis le 19 octobre dernier, Georges Galarneau peut se vanter d'avoir atteint le camp de base de l'Everest à partir de Katmandou au Népal, et ce, en seulement 9 jours de marche. En moyenne, les gens effectuent ce trajet en 14 jours. Pour y arriver, il a marché environ 11 heures par jour avec un sac contenant entre 15 et 20 kilos de matériel. J'ai franchi la barrière psychologique dès la première journée. Après 6 heures de marche, avec une forte inclinaison, je voulais abandonner. Mon guide m'a dit d'attendre une journée encore. Finalement, j'ai réussi à me rendre jusqu'au bout. Ça lui a également pris 4 jours pour en revenir de Katmandou. Atteindre le camp de base à 5364 mètres d'altitude est un bel accomplissement, mais il était encore loin du sommet qui, lui, culmine à 8800 mètres. Dès les premiers jours, cet homme a attiré l'attention des Népalais en raison de sa forme physique exceptionnelle pour ses 77 ans. Ce dernier s'était entraîné 3 heures par jour pendant les 7 mois précédents pour être fin prêt. Selon ce que les guides lui ont raconté et après avoir vérifié leur registre, M. Galarneau serait l'un des plus vieux individus à avoir grimpé jusqu'au camp de base. Il me demandait sans cesse mon passeport. Personne ne croyait quand je disais mon âge. J'imagine que ça devait être flatteur. Le septuagénaire a pris la décision de relever ce défi lors de sa montée du mont Kilimanjaro en 2014. Décidément, il n'y a pas besoin de robot, ce monsieur. Il avait alors 74 ans. Selon lui, la montée jusqu'au camp de base de l'Everest est beaucoup plus difficile que celle du Kilimanjaro, qui, elle, est le plus haut sommet d'Afrique. Je me souviens que l'oxygène était plus abondant. J'étais capable de trouver mon deuxième souffle. Là, c'était juste impossible. En plus d'un taux d'oxygène plus bas, la montée est particulièrement difficile en raison de l'irrégularité du sol. Il y a une espèce de poussière de roche super glissante. Tu dois vraiment être en contrôle et surtout quand tu descends, renchérit ce Montréalais. L'alimentation a également été un défi pour lui puisqu'il est végétarien. Il mangeait presque exclusivement des œufs et du riz. Ce n'était pas un hôtel 5 étoiles. Lors des 2 dernières journées du voyage, il a été malade, si bien qu'il a perdu 15 livres durant son expédition. Monsieur Galarneau se prépare depuis plusieurs mois en vue de son voyage. Je faisais des escaliers au gymnase avec un poids de 25 kilos dans mon dos. Sa femme, Nicole Marié, a avoué que son mari est un phénomène de la nature. Elle l'appelle son petit extraterrestre. Il est discipliné, c'est incroyable. Il surveille son alimentation. Il ne triche, tout simplement jamais, a avoué sa complice de vie. Alors voilà, c'était un texte pour souligner cet exploit. C'est de Carl Vaillancourt et de vendredi 27 octobre. Alors, nous vous laissons maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et nous espérons vous retrouver.